Top 25. Et pour ce top 25, j'aimerais faire un jingle. Et pour faire un jingle, l'année dernière, on avait eu l'idée, je sais plus trop comment, de faire
l'alcool,
un jingle,
sans doute.
L'alcool sans doute, de faire un jingle participatif. C'est-à-dire que le jingle que vous allez entendre, je vais faire un petit tour de table là maintenant. Vous allez tous devoir me donner un élément sonore à mettre dans ce jingle. Et parmi les 10 propositions que vous allez me faire, je vais devoir faire un jingle. Par exemple, l'année dernière, on avait mis du Lana Del Rey et un espèce de chant guttural du chant de gorge. Un truc, voilà. Donc là, je vais faire le tour de table. Vous allez tous me donner votre petit un élément sonore, comme tu veux. Clément, tu as une petite question,
une
peut-être.
Question, c'est un bruit qu'on fait ou un bruit que tu peux retrouver.
Un bruit que je peux retrouver. Par exemple, tu veux me dire, j'aimerais bien que y ait le bruit de clé qui tombe sur du carrelage. Okay. Voilà. Et vous me dites n'importe quoi, ça peut être un bout de chanson, ça peut être ce que tu veux. Quentin, tu me donnes quoi comme élément ?
Je te donne le drop magnifique de la chanson Lethargica de Meshuggah, qui est sur l'album Obzen.
Ok. Maxime ?
Faudra lui écrire apparemment. Moi je te propose de mettre le bruit d'une boule de bowling qui renverse des quilles, et je veux que précisément ça ne fasse pas un strike mais qu'il reste une quille.
Ok. Loris ?
Moi je veux du son, tu vois, genre.
Bah je prendrais ça.
Non, je voulais que tu regardes des gros trucs porno.
Ah d'accord.
Okay. On avait compris.
Le cul. Ouais.
On est vraiment tout autour de la table. Clément.
Moi je veux une phrase d'Éric Judor dedans.
Ah, oh, chouchou. Isabelle.
Moi je démissionne.
Mais non.
Je sais pas, je veux une cuillère qui tourne dans des spaghettis.
Ça rejoint le truc de Loris. Lina.
Alors moi je veux le chant d'une cigale, précisément la Tana japonensis.
Alors je verrai ce que Free DB Sound me donne. Mais peut-être je ferai au mieux, je trouverai un truc YouTube. Justin.
Le bruit d'un clap de cinéma.
Oh, il est beau. Mais oui.
Il est corpo.
Si ça se reconnaît à l'oreille, c'est pas sûr.
Bah oui, si. Nam.
Une explosion suivie d'un cri de Wilhelm.
C'est marrant parce que chacun vous me donne... c'est un peu les personnalités de chacun en un petit son. François,
je sais pas ce que ça va révéler sur ma personnalité, j'ai un peu peur. Je voudrais bien Jean-Marie Bigard qui dit aux ordres du pognon.
Est-ce que tu peux juste m'envoyer la vidéo où il dit ça?
Bien sûr, je peux même te renvoyer le remake Synthwave
les
de cette version là.
Non, si je veux pas que ma bigarothèque soit aussi remplie. Mais je note, c'est gentil. Donc ce que vous allez entendre maintenant, que nous ne connaissons pas tout de suite, mais que vous connaîtrez vous, c'est le jingle, et ça donne à peu près ça.
Sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon.
Top 25 donc, après ce magnifique jingle, et j'espère que vous êtes prêts, nous on l'est, et je tiens à préciser qu'il n'y a que moi, Robin présentateur, qui possède les clés de ce top, et que moi qui connais l'ordre, vous allez tous découvrir en écoutant et autour de la table les chroniqueurs. Ce qui va se tramer, 25e avec 10 points, et c'est pas compliqué, puisque... il a été tout seul. C'est un top 1 et c'est un top 1 tout seul. C'est
je
François.
Sais que c'est moi.
Et
je
c'est
le savais avant d'arriver.
La plateforme, le film d'horreur Netflix, ouais. Distribué par Netflix. Je crois pas qu'il était
non,
produit.
C'est pas une prod Netflix,
non, ouais, ça c'est juste distribué. Réalisé par Galder Gastelu Urrutia. Horreur, science-fiction, thriller, un triplé de. Voilà, quand on aime un petit peu le genre, ce genre de truc qui fait plaisir dans les, dans les petites étiquettes. François, pourquoi
je t'apprends rien, on aime bien Cube.
On aime bien Cube,
bien
ouais.
Les films à concept. Ouais. Et. Celui-là a eu aussi un peu de autour du film, il s'est passé des choses, c'est-à-dire que le film, quand il est sorti, a eu un petit buzz, il y a eu beaucoup d'interprétations, d'analyses tout autour du film, et c'était pour moi aussi intéressant que le film. Et puis, pourquoi pas un film sur l'enfermement volontaire en 2020, finalement.
Il est sorti quand? Il est sorti avant le premier confinement?
Après. Ouais.
Évitez de manger vos colocs, quand même.
C'est sûr. On ne mange pas ses colocs, même s'ils sont consentants, je crois que c'est illégal.
Bon.
Et voilà, et aussi un film qui m'a donné la nausée dans le bon sens du terme. qui m'a fait frémir sur des choses qui ne sont pas censées me faire frémir, genre des gens qui défendent un gâteau, avec aussi du coup du second degré, de l'humour, et voilà, et la métaphore, certains pourront ne pas aimer la métaphore, pourront la trouver un peu transparente, mais voilà, c'est aussi un film pour s'amuser.
C'est vrai.
Et j'ai beaucoup aimé, et c'est mon top 1, voilà.
Bah oui, c'est ton top 1. Mais c'est marrant parce que moi, ce que ça m'aura apporté, ce film, c'est que je pensais pas aimer la panna cotta, et du coup, en repensant à ce film, je me suis dit, bon, tiens, je vais réessayer, c'est super bon, en fait. Petite anecdote perso, est-ce que ça a quelque chose à foutre là, je sais pas, je suis pas sûr.
Le message, c'est à la panna cotta, voilà.
Long live the panna cotta.
Après, voilà, je mets du temps, de mon temps libre dans cette émission, si j'ai 10 secondes pour parler de ma vie, c'est quand même pas volé. On enchaîne avec le 24e qui est dans la même situation, qui a le même nombre de points. Lila, je suis désolé, mais l'extraordinaire voyage de Marona, malgré ton lobbying intense sur Twitter, n'a que 10 points, mais c'est déjà bien.
J'en ai pas harcelé assez de gens, c'est tout ce que ça m'apprend.
Film d'animation, du coup.
Film d'animation, tout à fait, de Anka Damian, et en fait un film d'animation pour lequel je me suis dit, bah, enfin quelqu'un qui a compris à quoi servait l'animation. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans le... Enfin, souvent, ce que je reproche à beaucoup de films d'animation, enfin, surtout les gros films d'animation, c'est qu'on est finalement juste dans la reprise de code de ce qu'on aurait dans un film live-action, et voilà, juste avec des caractères animés, peut-être avec un peu de fantasy, dans des chara-design à gauche, à droite, mais finalement, quelque chose qui reste très terre-à-terre. Dans l'extraordinaire voyage de Marona, on est vraiment constamment dans de la métamorphose, dans le mélange de plusieurs techniques d'animation, de plusieurs styles, et tout sert l'intrigue de manière très sensorielle, très émotionnelle. La fantaisie, en fait, va vraiment accompagner, enfin, créer une ambiance qui va accompagner des états d'esprit du personnage, qui va accompagner ce qui va affronter. On va avoir... par exemple, Marona, qui est l'histoire donc, d'une petite chienne qui va avoir des maîtres successifs, et par exemple son premier maître va être un acrobate, et en fait il a un costume avec des rayures, et en fait ces rayures forment des lignes, des sortes de lianes qui vont déborder de ses manches, qui vont bouger, qui vont vraiment être très... Et le personnage dans son ensemble est très élastique et il va vraiment renvoyer tout ce côté un peu poétique, un peu libre qu'il peut représenter. Et voilà, en fait, pour chaque personnage, c'est ça, il est vraiment incarné dans l'animation d'une manière originale, d'une manière unique. Et ça fait que, enfin, c'est vraiment un émerveillement de tous les instants. Il y a toujours quelque chose à regarder dans l'image, toujours une idée, que ce soit dans les personnages, oui, mais même les arrière-plans. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très doux aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller à tous les publics, des cinéphiles aigris, élitistes, aux gamins de 5 ans. Et je pense que tout le monde vraiment peut bah, apparemment pas vous.
on a une âme de pierre, si c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est parce que c'est vraiment, genre, on sent que c'est ton top 1. Genre, t'as tellement de cœur quand t'en parles. C'est vraiment, c'est la... Parce que la beauté de ce que peut apporter vraiment le cinéma, et enfin à l'expression vraiment physique, genre tu sens que t'as kiffé le film et que c'est quelque chose qui t'a vraiment fait rêver, et c'est, t'en parler, c'est sûrement aussi beau que le film.
Non, puisqu'on peut dire, c'est que je pense effectivement que c'est un film qui va plaire à tout le monde. Peut-être pas tout le monde va trouver ça fabuleux, formidable, extraordinaire, nouveau, ou je ne sais quoi, mais je pense que pour ne pas aimer ça, il faut avoir un cœur de pierre. Je suis d'accord avec toi, Romain.
Parfait. Alors, on va passer aux films qui ont 11 points. Il y en a 6, qui, avec des calculs plus ou moins différents. Donc, ils sont tous à peu près à la même place. On est entre 23 et 18 qui ont 11 points. C'est parti, on va commencer, donc sans trop d'ordre, avec Mignonne de Maïmouna Doucouré, sorti en 2020. Et on va laisser la parole à Isabelle. Pourquoi ce film était dans ton top ?
Alors, ce film était dans mon top parce que déjà, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma cette année, ça faisait bien plaisir. Aussi parce que c'est pas un film qui m'a parlé dans un sens où ça a résonné avec une expérience que j'ai ou quoi, parce que c'est clairement pas le milieu dans lequel j'ai grandi ou des choses comme ça. Mais par contre, il y avait vraiment, je trouve, une espèce d'universalité, d'une expérience de petite fille en fait qui grandit dans le monde dans lequel on est maintenant, qui pour le coup en fait je trouve transcende vraiment totalement les questions de est-ce que c'est la banlieue parisienne ou est-ce que c'est le fin fond de la campagne dont certaines personnes viennent, Et en plus de ça, il y a eu tellement de dialogues en fait autour de ce film, et beaucoup générés seulement par le trailer. Mmh. Et je trouve que c'est très 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 important de le voir et de considérer en fait pourquoi est-ce que la majorité des dialogues, des discours choqués qui sont venus majoritairement des hommes par rapport au trailer en disant c'est terrible, sexualiser ainsi les enfants et tout ça. De se rappeler quand même que cette sexualisation, elle vient pas du regard des femmes, elle vient pas du regard de Maïmouna Doucouré, elle vient du regard des hommes en fait dans nos vies, qui est enfin extrêmement important et d'autant plus important entre nos 10 ans et nos 20 ans en fait. Et j'ai trouvé que c'était peut-être le seul film que j'ai vu de ma vie qui parlait de ça aussi bien. Par contre, c'est pas du tout à voir si on veut avoir le moral ou des choses comme ça, faut le préciser quand même.
Ah, il y a des films qui malheureusement doivent nous mettre un petit coup pour être impactants. Ouais. Justin, du coup, un petit mot.
Oui, donc je suis d'accord, il y avait vraiment une sorte d'universalité dans le propos, dans le regard de comment c'est grandi, comment évoluer en tant que petite fille, que femme dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans l'intimité de la famille ou par rapport à la société ou à ce que renvoient les médias et autres. Et c'était vraiment très intéressant, très, très passionnant, effectivement.
Place suivante, toujours avec le même nombre de points. Donc, on a Joseph, encore un film d'animation. Maxime, je t'en prie.
Ouais, moi, c'est un film qui m'a plu parce que, notamment, je, même si je sais que, voilà, je sens le regard pesant de Lila, mais je sais que...
Non, ça va, j'ai pas spécialement accroché mais... à l'animation, mais je trouve que c'est quand même un bon film.
En fait, effectivement, je suis assez d'accord sur... il souffre de la comparaison avec Marona, en tout cas, mais d'un point de vue, ce qui raconte et la manière dont il essaye de le raconter... en mêlant différentes formes d'animation et différentes directions artistiques qui arrivent à garder quand même une direction commune. J'ai trouvé le film plutôt marquant et en plus ça m'a permis à la fois de me documenter sur un artiste que je ne connaissais pas et sur une période que je connaissais peu, c'est-à-dire la guerre d'Espagne. Et du coup, un film plutôt marquant de l'entre-deux confinement.
Il me semble qu'on a tout dit sur Joseph, c'est parfait. Toujours à cette 18e position, ex aequo, encore un film Netflix. Tiens, forcément, il y aura un peu plus de SVOD que d'habitude sur cette année. Mais celui-là, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce tout personnel, puisque c'est His House de Rémi Wicks. Un film d'horreur, du coup, qui tranche pas mal. Alors, lancer un film d'horreur au hasard distribué par Netflix, c'est quand même... Faut avoir un certain courage. Isabelle, là, on chope clairement le haut du panier, pas forcément que des films d'horreur Netflix, mais des films d'horreur tout court de ces dernières années.
Ouais, je suis totalement d'accord. Effectivement, quand tu lances un film Netflix, un film d'horreur Netflix, il faut quand même bien s'attendre à tomber sur une purge. Là, pour le coup, c'est j'aurais même dit en fait un film juste en fait tout court, vraiment vraiment excellent, porté par des acteurs incroyables. C'est presque un huis clos en fait dans cette maison de la banlieue d'Angleterre triste et morne. Et y a un discours social. Alors, c'est toujours un peu le côté film d'horreur avec discours social. Ça peut être tout ou rien. Des fois, ça peut être super lourd. Là, pour le coup, c'est vraiment porté avec... J'ai trouvé beaucoup de subtilité. Tu seras peut-être d'accord.
Ouais,
et en plus, ça a aussi l'avantage de faire peur.
Ouais.
Et de pas y aller non plus avec le dos de la cuillère, pas comme un relique qui du coup va être très très beau dans la métaphore mais pas forcément super flippant. Là, il va y avoir vraiment un côté vraiment vraiment prenant tout du long et très frontal qui était vraiment cool
pour un premier film en plus,
en
reste
plus.
Assez incroyable. Donc effectivement, His House qui mérite amplement d'être dans ce top 25. Encore dans le 18 bis, Never, Rarely, Sometimes, Always, dont on avait longuement parlé. On n'a pas encore entendu Quentin, mais c'est vrai qu'il avait suscité l'un des débats de fond les plus intéressants de cette année à ce micro.
C'était Never, Rarely, Sometimes, Always. C'était, perso, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de retenir ma respiration pendant tout le film, alors que le film n'est pas... c'est pas un film qui est très rythmé, c'est pas un film où il y a de l'action, pas du tout. Mais en fait, c'est un film qui tient en haleine par la froideur et la triste réalité que le film dépeint, quoi. Et c'est assez incroyable. Never Rarely, Sometimes, Always, ça parle très rapidement, ça parle d'une jeune femme aux États-Unis qui en fait tombe enceinte, se retrouve enceinte et qui en fait fait tout pour avorter. Et en fait, sa cousine va l'aider à aller avorter à New York, si je me souviens bien. Et en fait, le film raconte juste ça, entre guillemets, mais c'est déjà énorme, quoi.
Encore une question de regard aussi, on en avait pas mal insisté ouais. là-dessus, sur la place du regard des hommes, de l'implication, de qu'est-ce que c'est qu'être indépendante ou qu'être...
C'est ça.
Et c'est compliqué. Ouais.
En fait, c'est ça qui était impressionnant, c'est qu'il y avait... ça dépeignait les hommes dans leur triste réalité qui sont c'est des prédateurs, etc. Mais c'était jamais, ce qui était fort, c'est que c'était jamais forcé et ça avait jamais besoin de l'être parce que c'était suffisamment équivoque. Et ça avait vraiment l'aspect d'un documentaire, quoi. C'était filmé un peu comme ça, caméra épaule, avec des longs plans fixes. Et c'était très impressionnant, quoi, à regarder.
On va rester un petit peu sur le quasi-documentaire, puisque c'est tout à fait un documentaire. C'est le top 1 d'Isabelle. Et c'est un pays qui se tient sage. Encore une fois, ça va être compliqué d'être de bon moral après le visionnage de ce documentaire.
Mais en fait, maintenant que j'y pense, tout mon top 10, il est super déprimant. En fait, il y en a un qui... un pays qui se tient sage. Après, je trouve que c'est quand même... ça fait 2 années en fait que mes tops, c'est des films sur la police en France, puisque si j'avais fait mon top 10 de l'année dernière, ça aurait été Les Misérables. Un pays qui se tient sage, c'est un film que je pense tout le monde devrait voir en France, tout le monde sans exception. C'est quelque chose qui est extrêmement important en ce moment. Ça va au-delà en fait de la cinématographie, ça va au-delà de oui, c'est beau, c'est intéressant. C'est surtout en fait quelque chose qui est d'utilité publique maintenant, d'autant plus avec. Avec les lois qui sont en train de passer, je pense que je fais un peu... je peux faire de la politique.
Tu peux faire de la politique.
c'est plus une question de cinéma, en fait. C'est une question d'information du public qui est nécessaire et qui a été totalement amenée, en fait, par David Dufresne avec ce documentaire. Il a été très vu. Je pense qu'il a toujours pas été assez vu parce que je pense qu'il devrait être montré dans les écoles. Voilà.
Clément ?
Pareil, je trouve que c'est un film important. Enfin, je pense que n'importe qui l'a vu pourra dire ça. Après... Plus sur la question du cinéma, et moi c'est vrai que je l'ai mis plutôt en fin de mon top, c'était intéressant, mais je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir différemment ou quelque chose qui m'accroche plus. En tout cas, j'ai pas été totalement accroché sur la forme, mais évidemment que sur le fond, de toute manière, comme je rebondis sur ce qui a été dit, c'est tellement important et il le fait de manière très très claire et de manière aussi avec quand même. Enfin, il essaye de mettre des pincettes sur un sujet qui est évidemment très compliqué et qui soulève beaucoup d'enjeux. Et ça, il arrive bien à le faire. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important.
C'est belle.
Ouais, juste, je voulais dire que moi, la raison pour laquelle j'ai mis en top 1, au-delà du fait que, c'est un film qui repose quand même majoritairement sur des images filmées en manif et donc il n'y a pas de cinématographie particulière ou quoi, c'est parce que je pense que en 2020 surtout, mais ça fait des années en fait, et ça fait des dizaines d'années que ça dure, et on va pas faire semblant que ça arrive maintenant. Je pense que la conscience politique est plus importante que le cinéma. Dans le sens où c'est plus, enfin là je trouve que ce qui est urgent en fait c'est ça, quoi.
Lila.
Et puis je pense aussi que même si on parle d'images qui ont pour beaucoup été filmées sur des smartphones, qui ont tourné sur les réseaux sociaux et qu'on a pour certaines déjà vues sur nos comptes Twitter, etc., là, les voir là, être vraiment posées dans une salle dans le noir, enfin quand on peut l'avoir vu bien sûr en salle, mais en tout cas être face à un écran, ça, plus le fait aussi de le replacer dans un contexte philosophique, politique, d'avoir des gens qui vont apporter une réflexion sur l'usage de la violence par l'État, ça permet vraiment de prendre ces choses, ces bribes d'informations qui nous saturent et au final qu'on n'arrive pas à analyser et à prendre le temps de les décortiquer et de se rendre compte de l'importance de ce débat aujourd'hui et d'à quel point il a des racines profondes.
Restons du coup sur la politique, puisque en fin de 18 bis et après on avance un petit peu dans les points, on a La Cravate, ce documentaire de Mathias Théry et Étienne Chailloux. Pareil, alors là, ça prend presque le spectre opposé, puisqu'on va s'intéresser à un militant, jeune militant, c'est ça ? Absolument, Rassemblement National.
Oui, j'allais dire du FN, mais maintenant que le marketing a changé le nom, effectivement, c'est le Rassemblement National. Moi, c'est un film qui m'a fait un peu le même effet qu'Un pays qui se tient sage, et dans le fond, l'un ou l'autre aurait pu être dans le top, à la différence que La Cravate, c'est un film que j'attendais pas, et du coup qui m'a surpris, qui m'a permis de découvrir ces réalisateurs-là qui ont aussi fait d'autres films. Et pour moi, une des grandes forces du film, c'était justement de donner la parole encore une fois, un peu comme Un pays qui se tient sage, mais donner la parole à ceux qu'on entend rarement. Et donc là, ce militant du Rassemblement National, essayer de le confronter à ses contradictions. Et c'est un film qui essaye de, voilà, de démonter son personnage, mais sans être à charge. C'est un truc que j'avais trouvé assez équilibré. Et pour moi, le gros succès du film tenait dans son écriture et dans son approche du sujet, que j'avais vraiment trouvé réussi. Et malheureusement, je rejoins Isabelle qui disait que pour un pays qui se tient sage, c'est un film qui devrait être vu par tous. La cravate, c'est un peu la même chose, et c'est un film qui surtout devrait être vu par tous les gens qui ne l'ont pas vu, en fait. Parce que malheureusement, c'est souvent des films qui prêchent les convertis. Et voilà, ça serait cool qu'un jour on arrive à en faire le négatif, mais ce ne sera pas avec La cravate, je crois, encore. Pour autant, je le conseille tout de même.
Bah, je trouve que la cravate peut presque être... Alors le terme est mais un peu plus piégeux, puisque à la bande-annonce, il y a quelque chose d'un peu équivoque.
Oui, bien sûr, il y a un doute qui était laissé planer. Mais dans le fond, le film continue à... Le film ne cherche pas tant à démonter qu'à essayer de comprendre, en fait. Et du coup, c'est peut-être un de ses avantages qui fait que peut-être que s'il était vu par... Bah, tous les gens qui ne l'ont pas vu, ça pourrait peut-être permettre un vrai rassemblement national en dehors du parti.
Certes. Allez, on monte d'un point, puisqu'on passe de... Même de 2 points. On passe de 11 à 13 points. 17e position, c'est Eva en août, film espagnol réalisé par Jonas Trueba. C'est Justin qui s'y est collé. Eva en août, c'est... voilà, on change un petit peu. Est-ce que c'est un petit peu plus rêveur que ce qu'on avait précédemment?
Oui, c'est un peu plus rêveur. Donc, c'est, voilà, c'était une sorte de variation du rayon vert d'Éric Rohmer, avec une sorte d'un personnage qui se cherche un peu donc en août, hein, voilà, à Madrid. Et donc, voilà, c'est une espèce de film flottant, un peu rêveur, avec un personnage un peu opaque, mais assez fascinant pendant toute la durée du film. Et donc, c'est vraiment une balade, si on aime les ambiances, comme je disais, à la Rohmer, et puis une balade existentielle, un peu légère, un peu grave en même temps. Donc avec la révélation d'une actrice vraiment que moi je connaissais pas, Itza Suarana, qui a vraiment une présence magnétique à l'écran, qui exprime beaucoup de choses. Il y a pas mal de scènes où elle est seule, où on l'accompagne du regard, accompagne sa silhouette, elle fait passer beaucoup de choses sans les mots. Donc c'est vraiment très très bien qu'on ait vu ou pas d'ailleurs le rayon vert de Rohmer, mais ça donnera envie vu que c'est l'influence principale. Moi, je sais que je l'avais pas vu, je l'ai vu après coup, du coup. Donc ça peut donner aussi envie de découvrir le film qui a inspiré.
Parfait. Donc là, on avait un petit peu quelque chose un peu plus aéré, des émotions solaires, et bah hop, deuxième vague. Yes. Monos, Alejandro Landes, qui est pas forcément les films les plus sympathiques au monde, en tout cas dans ce qu'il pourvoit, mais qui est très sympathique à l'œil en tout cas. Et je vais me tourner vers Nam, puisque Nam n'a pas encore pris la parole. Nam n'aime que les films du top 10 de toute façon.
Bah oui, de toute façon, le reste ça sert à rien. Ça.
Il est en CoF4. Nam, Monos.
Oui, bah Monos, qui est une histoire qui se passe en Amérique du Sud, je sais plus où exactement.
Colombie.
En Colombie, où il y a des. Des Colombiens qui ont enlevé une femme, je ne sais plus ce qu'elle fait, doit être journaliste ou voilà, et qui est confiée à un groupe d'enfants qu'ils appellent du coup les monos, et qui doivent la garder parce qu'elle est en otage, tout ça. Et c'est un film qui est très beau par rapport à ce qu'il a montré, moins beau par rapport à ce qu'il raconte, mais mais ouais, très, très très sympa, ça vaut le coup d'œil.
Lila.
En fait, moi c'est enfin. J'ai mis ce film-là dans mon top, de la même manière que j'ai mis le film Exit dans mon top. En fait, je trouve que c'est deux films qui traitent de manière, enfin, qui arrivent vraiment à traiter la souffrance physique d'une manière très très visuelle. On ressent vraiment. Bon, alors dans Exit, c'est le froid, la pression, la chaleur aussi. Bah là aussi, c'est pareil. On sent vraiment. Il y a principalement deux atmosphères dans Monos. Qui est la première, ils sont dans des montagnes où il fait froid, où il y a de la brume. Et ensuite, ils partent dans une jungle très tropicale, avec une touffeur assez prenante. Et puis, il y a aussi, enfin voilà, des pérégrinations qui les amènent à être confrontés à des moustiques, à de la boue, à des torrents, enfin plein de choses. Et tout ça, en fait, est vraiment super bien rendu, donc d'une manière très esthétique. Je crois que c'est Jasper Wolf à la photographie, si je dis pas de bêtises. Et même au niveau du jeu des acteurs, au niveau des maquillages, enfin tout est vraiment super bien travaillé pour nous faire ressentir physiquement les épreuves qu'ils traversent, et moi ça m'a vraiment retourné, quoi.
15e position, un film d'animation encore, on aime bien l'animation autour de la table, c'est La famille Willoughby. Là on change un petit peu, alors c'est peut-être sûrement un peu moins inventif formellement, Par contre, c'est tendre as fuck, il me semble, non ?
Absolument, c'est François et Nam qui m'avait dit regarde-le. Et en fait, moi d'habitude je suis pas très film d'animation dans le sens où les films d'animation, familiaux un peu pour tout le monde, j'ai souvent du mal parce que je trouve ça très aseptisé, très bon, c'est souvent sur des rails, c'est un peu mignon. Et en fait là, je me suis juste marré de A à Z. C'est drôle tout le temps. Il y a des idées visuelles folles. On revient sur un truc de spécificité du médium aussi, où justement ils font des choses. Le chara-design, il est parfait. Enfin, c'est très innocent comme film, dans le sens où c'est pas c'est jamais maladroit ou quoi. Et je trouve que ça parle bien de la famille choisie, de thèmes qui sont pourtant plutôt minés, quoi. Et en fait, je trouve que ils ont abordé le truc avec légèreté, mais avec beaucoup de justesse. Et puis techniquement, c'est impressionnant, quoi.
Nam.
Oui, et puis c'est un film aussi qui est assez imprévisible, parce qu'avec le scénario de base, bah, c'est des enfants qui veulent se rendre orphelins parce que leurs parents sont sont pas terribles. Et en effet, le film confirme que leurs parents sont pas ouf. et en fait, partant de là, n'importe qui pourrait écrire un scénario qui tiendrait la route qu'on a vu 500 fois, et le film ne fait absolument pas ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand le film avance, et c'est très agréable pour le coup.
14e limite celui-là parce qu'il est sorti le 1er janvier 2020, donc c'était chaudard, mais c'est Play, et je vais donner la parole à Clément. Play, un film en fin de footage finalement.
Oui, tout à fait, ouais. Non, clairement, en plus du coup, comme tu as dit, il est sorti le 1er janvier, donc c'était l'après Nouvel An, et c'est vrai que ce genre de journée d'après-fête, de moment d'après-fête, t'as toujours une sorte de spleen où t'es un peu décalé, tu sais plus où t'habites, etc. Et du coup, aller au cinéma, c'est bien parce que tu te laisses un peu porter, et c'est vrai que sur un film qui parle un peu de nostalgie, un peu d'après-fête, mais on va dire de la vie, entre guillemets, quoi, et ben ça matchait plutôt bien, et du coup, les émotions, bah, ça s'est assez bien passé. Je pense que j'ai dû pleurer pendant le film. Et non, c'était super. Alors après, c'est un film générationnel, donc ça parle de gens qui ont à peu près nos âges, donc forcément on se retrouve dedans, et puis c'est très très référencé, donc t'as plein d'éléments, de choses pour les yeux et pour les oreilles, donc non, ça marchait super bien, et pour un truc qui semblait un peu une comédie un peu rapide, franchement ça a bien marché, en tout cas.
J'ai l'impression que ça a un peu surpris tout le monde dans sa qualité, et que tout le monde s'est sorti de paix en disant mais en fait c'était vraiment pas mal. Maxime.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus voilà, on était tous comme disait Clément un peu à fleur de peau à cette période là et c'était certainement histoire d'anticiper le fait qu'on allait passer une super année 2020. Et bah oui, quoi de mieux que de se replonger dans tout ce qui s'est passé avant 2020 pour plutôt kiffer sa race. Et ouais, c'était un film assez touchant, même s'il y a certainement des trucs à redire sur la manière dont il est fait. Mais au final, c'était une vraie proposition.
On augmente un petit peu, on remonte toujours, on approche du top 10, on est à la 13e position. Et la 13e position, alors vous doutez bien, pas forcément, mais il y a deux documentaires de Sébastien Lifjitz qui sont dans le top, voilà. Et le premier, donc celui qui est à la 13e position, l'autre est un peu plus au-dessus, c'est Adolescente qui est le top 1 de Maxime, si je ne me trompe pas.
Absolument, déjà parce que j'aime pas faire comme tout le monde, ensuite parce que des deux, finalement, c'est le premier que j'ai vu dans un contexte particulier. En fait, c'était aussi un moyen de remettre le projecteur sur la salle de cinéma, puisque on en parlera sans doute tout à l'heure plus tard, mais Petite Fille n'étant sortie que sur Arte. Moi j'ai vu Adolescente au cinéma, et dans le contexte particulier de la présence de Sébastien Lifshitz pour en reparler, et c'est un film qui m'a beaucoup touché sur sa manière de mettre en scène le réel. Enfin, en fait, c'est un réalisateur qui me touche beaucoup dans ce sens là et qui questionne les relations familiales, notamment dans ce film là et j'ai adoré les deux personnages, quoi, du film. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui, pour moi, c'était impossible de départager les deux quasiment. Et en fait, la seule, je me suis un peu amusé d'ailleurs à regarder les tops des rédactions ou des gens sur Twitter. Et à chaque fois, je me disais que s'ils en mettaient un, c'était certainement parce qu'ils n'avaient pas vu l'autre, parce que pour moi, ça n'a aucun sens d'en mettre un et pas l'autre. Et voilà, on y reviendra après, mais en tout cas, c'était deux très grands films. Et Adolescente était effectivement mon top 1 de cette année.
Ouais. J'ai vu que je viens de voir que la BO était faite par Tindersticks que j'ai découvert parce qu'ils ont fait la BO de High Life de Claire Denis. Voilà. Je sais pas si la BO t'a marqué.
J'ai été plus marqué par celle de Petite Fille, pour le coup, qui est un peu plus présente dans la mise en scène. Celle de l'adolescente est un peu plus en nappe.
Très bien. On y reviendra de toute manière. Douzième, un film Disney+, donc forcément, vous savez de quoi il s'agit. Moi, si.
Star Wars.
Mulan.
Mais non, c'est Soul, évidemment.
Ah oui, bien sûr.
Soul. François l'ami, évidemment. Alors Saul qui était annoncé comme étant, là, il retire son masque pour. Là, ok.
Non mais là je vais parler clairement.
Il va dire les
je
termes.
Je vais dire les mots.
Saul qui était annoncé comme le bulldozer de la fin d'année, au final 12e place, c'est pas dégueu, mais il a pas fait l'unanimité autour de la table. On a malheureusement pas eu l'occasion d'en parler dans une émission normale, donc j'ai envie de donner un petit peu plus de temps à François pour s'épancher dessus.
Alors, je peux imaginer pourquoi certains ne l'ont pas mis. Peut-être que c'est très dans la veine des films de Pete Docter, dans le même esprit qu'un vice-versa ou des choses comme ça. Donc on peut se dire, tiens, c'est un petit peu encore une redite.
C'est surtout sur une plateforme à 30 euros par mois.
C'est ça. C'est prohibitif.
Oui.
Nous devons contourner les systèmes.
C'est, voilà,
on va dire ça comme ça. Et donc c'est un film qui, pour moi, alors déjà quelque chose qui est important et qui est un regret pour le coup de ne pas l'avoir vu au cinéma, pour moi c'est techniquement le film d'animation en 3D le plus abouti de l'histoire du cinéma à date. Donc ça, déjà, rien que ça mérite d'être souligné. Et ensuite, c'est un film qui a la qualité des films de Pete Docter, c'est-à-dire que c'est fait avec grande intelligence, à la fois du point de vue des idées, à la fois du point de vue graphique, à la fois de ce que ça raconte. C'est un film qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'humour, et qui parle de... Contrairement à des films comme Les Indestructibles ou Cars, ou qui sont des choses d'action ou d'univers, là, ça parle de la vie de tous les jours et de ce que Pixar sait très bien faire, c'est-à-dire montrer trois oiseaux et des gouttes d'eau qui tombent sur des flaques d'eau et ça nous fait pleurer, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois ce que
toujours
tu veux dire.
Voilà. Toujours en cœur, François.
Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un très beau film dans tous les sens du terme.
Bon, très bien. 11e aux portes du top 10, malheureusement pour lui, mais ça reste quand même une très belle perf. Ça va être l'apanage de deux personnes qui bossent chez Istasia, qui n'ont pas su orthographier du premier coup leur film, mais c'est pas grave, ils l'aiment quand même. À leur décharge, c'était Séjour dans les monts Fuchun, qui n'est pas évident à orthographier, visiblement. Un film qui est très bien classé chez Lila et qui est tout simplement le top 1 de Justin.
Oui, donc c'est vraiment, je pense, c'est la révélation de l'année. C'est un premier film d'un réalisateur qui envisage de faire une trilogie, voilà, sur la Chine contemporaine. Et justement, le film, c'est une histoire familiale dans la Chine contemporaine, comme on a peu l'habitude de voir dans les films chinois qui nous arrivent, où soit c'est du film du gros blockbuster, soit c'est des films de genre où on n'a pas l'habitude de voir. Et en même temps, il y a ce côté quotidien, puis il y a un côté fresque, vraiment, film dure 2h30, un côté épique, un côté romanesque, tout en étant inscrit dans le quotidien, à travers tout un groupe de personnages d'une même famille. Et donc, c'est vraiment assez captivant. Et formellement, il y a ce côté épique qu'on ressent aussi, tout en étant, ça reste très intimiste, mais il y a une sorte d'emphase voulue aussi qui arrive bien à se conjuguer à ce côté intimiste, quoi. C'est vraiment très puissant.
Lila.
La mise en scène est très réussie. Il y a notamment des plans séquences qui sont très beaux, mais qui, quelque part, ne viennent pas faire le hold-up de l'attention. Je sais qu'un film chinois qui avait beaucoup plu récemment, c'était un grand long voyage vers la nuit. Qui tient beaucoup sur son concept d'avoir un plan séquence d'une heure. Ok, c'est sympa, mais moi, j'ai envie de voir plus que l'exercice technique. Ça se limite pas à ça, là je suis un peu méchante. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Séjour dans les monts Fuchun, il y a la mise en scène est vraiment au service de l'histoire. L'histoire elle-même non plus est pas. C'est pas des thématiques de fou, c'est beaucoup l'argent, le mariage, la piété filiale, des thématiques qu'on a l'habitude de voir, mais qui sont vraiment traitées avec beaucoup de douceur, avec, sans tomber dans le mélo, sans tomber dans quelque chose de... Un autre film chinois qui était sorti un peu sur ces thématiques, c'était So Long My Son, où on avait une sorte de puzzle avec des morceaux dans le désordre. Enfin, là, il n'y a vraiment pas besoin d'artifice, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié dans Séjour dans les Monts Fushun, c'est que vraiment, on est en train de sujet avec simplicité, avec harmonie, et, que ce soit dans la mise en scène ou dans l'écriture. Et c'est juste beau, et on se laisse porter, et on a hâte de découvrir la suite.
Parfait.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais d'Edouard Yang plus tôt, et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un côté... Il y a ce côté ample narratif, c'est-à-dire, ça rappelle un peu Yizi, pour ceux qui l'ont vu, d'Edouard Yang, il y a ce côté ample narratif, tout en suivant des personnages qui nous ressemblent, il y a ce côté... vraiment très très puissant, ouais. Tout en étant voilà tout en ayant une sorte de proximité quoi, et voilà, si vous aimez bien Edouard Yang, Yizi, je pense que c'est le plus connu pour ceux qui l'ont vu, donc je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Puis vu qu'on risque de reparler de ce réalisateur, vu que c'est une trilogie, on risque de voir les autres films arriver dans les prochaines années, donc
voilà. Parfait. Eh bien voilà, alors évidemment tous les films qui sont sortis au cinéma, normalement vous pouvez en entendre un petit peu plus de notre part en écoutant les podcasts, les épisodes correspondants sur la troisième rangée, évidemment on vous rappelle, hein, c'est un épisode, un film, et puis on se dit à très vite pour le top 10 de ce qui arrive évidemment dans l'épisode d'après, les 10 meilleurs films de 2020 suivant la troisième rangée. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coups de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.